C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Allez, c'est parti, on inspire un grand coup. Dernier podcast de cette série de podcasts sur la prise de décision, sur le pourquoi du comment notre cerveau n'est pas fait pour décider efficacement et sur les outils, les matrices et les modèles nous permettant justement de contourner, on va dire, ce problème évolutif. Pourquoi cette série encore une fois ? Parce que prendre des décisions, ça, j'ai déjà eu l'occasion de t'en parler à plusieurs reprises, c'est vraiment une clé de la réussite professionnelle comme personnelle. Alors, ce n'est pas la seule clé, bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais c'est de loin une des principales. En fait, savoir décider efficacement, j'en parle une toute dernière fois rapidement, c'est savoir tout simplement comment obtenir des résultats. C'est aussi simple que ça. C'est savoir comment trancher même quand la décision à prendre est difficile à prendre. C'est savoir recruter par exemple une personne sans se poser de questions, sans prendre de risques. C'est savoir licencier une autre personne en ayant à l'esprit les conséquences au premier, au deuxième et au troisième degré que cela va avoir sur nous, sur notre équipe et sur notre entreprise. Ça, on l'appelle l'effet domino, j'en parle juste après. Savoir décider efficacement, c'est également savoir si c'est judicieux de quitter son emploi pour se lancer dans une nouvelle carrière, par exemple entrepreneuriale, ou par exemple pour un nouveau job. C'est également s'offrir la possibilité de monter un projet qui nous tient à cœur, avec tous les tenants et aboutissants à l'esprit, histoire de ne rien laisser au hasard, histoire de ne laisser aucune place au doute et à l'hésitation. C'est également savoir agir plus vite, plus rapidement et de façon plus pragmatique. C'est savoir également investir son argent de façon rationnelle et non pas émotionnelle. Et c'est savoir également, par exemple, s'il est bon de déménager, si c'est une bonne décision pour nous ou non. Bref, savoir décider efficacement, c'est tout simplement le fait de se donner le pouvoir de contrôler sa vie. Et réellement, je crois en ce que je dis. C'est se donner le pouvoir de ne pas être un suiveur, mais d'être un leader au quotidien. Et s'il y a bien une chose qui nous manque aujourd'hui dans notre société ultra nihiliste, ce sont bien des leaders. Ce sont bien des personnes qui ont le courage de décider et d'assumer leurs décisions. Par contre, attention, je m'emporte un peu, j'en ai conscience, mais attention, nuance importante, je ne suis pas en train de dire que savoir décider efficacement, c'est parvenir à prendre des bonnes décisions à coup sûr, pas du tout. Se tromper est quasiment même essentiel, j'ai envie de dire, dans le processus de prise de décision. Se tromper, c'est sain, c'est une très bonne chose. Et tu vois, il y a plusieurs choses que l'on peut reprocher sans problème au modèle anglo-saxon de façon générale. Mais pas ça. Pas le fait qu'ont vraiment justement cette notion d'échec au cœur de leur stratégie à la fois d'apprentissage et professionnelle. Eux ne voient pas l'échec comme une fatalité, comme quelque chose de négatif. Ils voient l'échec comme étant un pas de plus vers la réussite, comme étant le courage d'être passé à l'action. Alors que nous, de notre modèle latin, au sens global du terme, de notre modèle également judéo-chrétien, on va avant tout pointer l'échec du doigt. On va discréditer son importance. Et ça, on le voit depuis notre plus jeune âge à l'école. Décidément, en ce moment, je tape pas mal sur l'école. Est-ce que c'est lié au fait que mon fils fait sa rentrée en septembre prochain ? J'en sais rien, peut-être, peu importe. Dans tous les cas, à l'école, ce qui est pointé du doigt depuis toujours, du coup on est formaté comme ça, encore une fois, c'est l'échec. Un élève qui a, par exemple, une copie parfaite sur une dictée, sur des multiplications, sur des additions, sur des verbes irréguliers en anglais, peu importe, ne va pas remarquer son 99% de réussite, mais le 1% d'échec. C'est ça qui va être entouré en rouge sur la copie. Ce n'est pas le fait que l'élève a eu un super taux, c'est le fait qu'il a fait quand même une erreur dans sa réussite. C'est ça qui est pointé du doigt. Idem, cas concret que tu as forcément vécu, que j'ai vécu également, le cas de la poésie. La poésie, quand on passe devant le tableau, devant toute la classe, dès qu'on fait une erreur, tout le monde se moque de nous. Et le professeur ne perd pas deux temps, pour nous le faire remarquer et pour encore plus entériner le fait qu'on a fait une erreur. Ce qui crée notamment pas mal de traumatismes par rapport à la prise de parole en public, dont beaucoup d'adultes sont victimes aujourd'hui. Tout ça remonte à la cause qui est cette notion d'échec, pointée du doigt dans le système scolaire. Bref, j'ai digressé, je te disais juste avant, oui, que justement l'échec n'était pas, que la prise de décision, que savoir bien décider, n'était pas synonyme de savoir forcément décider de façon juste à chaque fois.
Je disais d'ailleurs que l'erreur faisait même partie du principe de prise de décision, du processus de prise de décision. Que savoir décider, en fait, dans tout ça, permet en fait de minimiser tout simplement le risque de prendre de mauvaises décisions. Permet également de transformer nos prises de décision de sources et de facteurs de stress, d'angoisse et de doute en opportunités à saisir. On change de prisme, on change de paradigme quand on sait décider efficacement. Également, grâce à ce switch-là, on n'est plus arrêté sur une erreur, mais on apprend de ses erreurs. On s'améliore grâce à ses erreurs. Car une erreur en tant que telle ne sert à rien, mais quand on prend une leçon, quand on tire une leçon d'une erreur, là, on peut progresser. Et également, apprendre à décider efficacement, je remets le couvert là-dessus, mais c'est le plus important, c'est surtout le fait de savoir assumer ses responsabilités. Quand on sait décider, encore une fois, on maîtrise sa vie. Je me répète, je le sais, mais c'est le message le plus important que je veux te faire passer aujourd'hui. Quand on sait décider, donc on sait justement maîtriser sa vie. On se rend compte réellement de ses choix, du poids de ses choix, des incidences de ses choix. On se rend compte de ses réussites, de ses échecs, et à chaque fois, on sait que tout ça provient d'une seule et même personne qui est notre personne. Et non pas, encore une fois, ce n'est pas de la faute des autres si on échoue. En effet, aujourd'hui, on a trop tendance avoir un comportement qui est puéril, qui est victimaire selon moi, qui ne mène à rien, le fait qu'on va toujours se dédouaner de nos responsabilités, qu'on va attribuer nos erreurs aux autres et nos réussites à nous-mêmes. Ça, encore une fois, ça ne mène à rien, ce n'est pas comme ça qu'on progresse réellement aujourd'hui. Donc, savoir décider, tu as déjà quand même pas mal d'outils en place aujourd'hui, je pense, grâce à mes podcasts, grâce au système 1 et au système 2, etc., pour justement commencer à décider efficacement. Et donc, par ce biais-là, réellement, prends conscience que tu as le pouvoir grâce à ça, que c'est toi qui maîtrises ta prise de décision et que tu ne dépends pas réellement des autres de façon directe pour faire tes choix. En tout cas, que tes problèmes actuels ne sont pas dus aux choix des autres personnes, mais à tes propres choix. Bref, encore une fois, je me suis pas mal emporté, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Dans tous les cas, la chose également que je voulais te dire, c'est que tout ça, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. En effet, dire « je vais bien décider », c'est simple sur le papier, pas de problème. Mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors là, je ne vais pas te refaire tout le discours sur justement le fait que tu penses être une personne rationnelle, logique et pragmatique au quotidien alors que tu n'es pas ce type de personne. Ce n'est pas une attaque personnelle contre toi, mais tout simplement c'est dû à ton système 1 qui prend le dessus sur ton système 2. Ça, on l'a vu lors du premier podcast du mois. Et également, c'est dû au fait que notre cerveau a évolué durant des millions et des millions d'années dans un cadre finalement très simple, peu normé, avec peu de contraintes, peu de stress, où la prise de décision était très simple à l'époque. On a donc hérité de ces conditionnements-là de prise de décision simple, transposés aujourd'hui à un environnement beaucoup plus complexe. Donc, il faut mettre en place des outils, des méthodes pour contourner ce problème-là et décider plus efficacement. Et justement, on va parler dans ce podcast-là d'outils, de matrices et de modèles mentaux qui sont présents dans ma bibliothèque de prise de décision, dont je te parlerai plus en détail à la fin du podcast. Et d'ailleurs, petit aparté rapide pendant que j'y pense, pour remercier la cinquantaine de personnes qui ont répondu au sondage que j'ai lancé la semaine dernière au sujet justement de cette bibliothèque de prise de décision et de mon programme Excellence décisionnelle. Jusqu'à présent, cette bibliothèque, je la gardais personnellement. Elle était à mon usage réellement individuel et personnel. Mais vu que je souhaite vous y donner accès, vous ouvrir l'accès au contenu que j'ai créé durant plusieurs années grâce à mes lectures, grâce à mes formations, grâce à mes études par exemple, eh bien, je tenais réellement à l'adapter en fonction de vos recommandations et de vos idées. Du coup, j'ai pas mal travaillé cette semaine, la semaine dernière, sur ça, sur la prise en compte de vos remarques, sur la prise en compte de vos idées, sur la prise en compte de vos de vos attentes également, pour faire en sorte que chaque modèle mental, que chaque matrice qui sont présentes actuellement dans ma bibliothèque réellement correspondent, encore une fois, à ce que vous attendez, vous. Qu'elle soit donc simple à utiliser, qu'elle soit ergonomique, qu'elle soit applicable immédiatement, qu'elle soit rapide d'accès, si je reprends les traits principaux attendus par les personnes qui ont répondu à ce sondage. J'ai également ajouté la possibilité d'avoir accès aux matrices modèles en version numérique, chose que j'ai moi actuellement via une application spécifique que tu pourras d'ailleurs télécharger très facilement une fois que tu auras le programme sur tous les stores, donc sur Android, sur Apple, sur Microsoft également, sur ordinateur, sur Mac, peu importe, l'application est disponible partout. Et j'ai également ajouté la possibilité surtout de télécharger chaque matrice et chaque modèle au format PDF, donc pour que tu aies toi la possibilité de l'imprimer, car ça m'a été demandé à de nombreuses reprises. Il faut croire que beaucoup de personnes sont encore attachées au format papier, alors que moi j'ai fait la transition du numérique à 100% depuis quelques années. Ce n'est pas une critique, c'est une façon de travailler propre à chacun, donc j'ai ajouté cette possibilité-là. Si tu veux voir de ton côté à quoi ressemble l'outil maintenant qu'il est quasiment terminé, à quelques modifications près bien évidemment, je t'ai fait une petite démonstration vidéo, toute simple, de quelques minutes sur son fonctionnement. Pour accéder à cette vidéo, tu vas tout simplement cliquer sur le premier lien présent en description. Tu vas arriver sur la page de présentation du programme Excellence Décisionnelle et tout en haut de cette page, tu vas avoir la vidéo accessible en libre accès tout simplement. Tu cliques dessus, tu regardes et tu vois à quoi ressemble la bibliothèque et l'application dédiée à cette bibliothèque. Dans cette vidéo, comme tu vas le voir, parce que je pense que tu vas le regarder, il faut croire que ce sujet intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, comme tu vas le voir, je te montre très rapidement deux matrices et un modèle mental. Je passe dessus encore une fois très rapidement, car le but est de montrer encore une fois la forme et non pas le fond dans cette vidéo. Donc, pour donner la balance, pour contrebalancer le passage rapide sur ces deux outils et sur ce modèle mental, je vais donner le change, voilà c'est le terme que je cherchais, et les développer en détail dans ce podcast pour que tu puisses toi, dès maintenant potentiellement les reproduire, les utiliser au quotidien et surtout grâce à eux décider plus efficacement et contourner encore une fois les blocages qu'éprouve ton cerveau à décider de façon juste, rapide et récurrente dans notre société actuelle. Alors, le premier outil sur lequel je passe rapidement s'appelle la matrice de décision. Ça, c'est un super outil que j'aime particulièrement. C'est un outil qui permet notamment de pallier à toutes les limites du tableau binaire, bête et méchant que nous avons tous fait naturellement quand nous avions une décision à prendre. Le fameux tableau des pour et des contre. Ce tableau des pour et des contre est d'ailleurs vraiment encore répondu à mon plus grand étonnement quasiment aujourd'hui dans toutes les sociétés. En effet, de par mon parcours professionnel, qui a duré 10 ans de mémoire à peu près, avant que je quitte mes fonctions salariées justement pour entreprendre ce podcast à temps plein, donc durant toutes ces années, j'ai vu bon nombre de managers, beaucoup également de clients, de décideurs et beaucoup de collègues à moi justement, qui fonctionnaient avec ce tableau des pour et des contre. Et même dans le milieu du recrutement, qui était mon milieu réellement de prédilection, où j'ai œuvré durant 10 ans, beaucoup de recruteurs, justement, faisaient ce tableau-là pour décider des candidats qu'ils allaient retenir ou évincer d'un processus de recrutement. Pourtant, cet outil, malheureusement, il fonctionne, quasiment pas. Il est très mauvais. Peut-être que toi, tu l'as utilisé, c'est normal, tout comme moi, je l'ai utilisé, parce qu'on a appris que ça, à la fois en école et en entreprise, on fait forcément de la reproduction par rapport à ça. Mais encore une fois, cet outil est très mauvais. Pourquoi ? Simplement car il exclut une notion clé qui est la pondération. En effet, les pour et les contre ne sont pas tous équivalents logiquement. On ne va pas accorder un même degré d'importance à des critères qui sont parfois éloignés. Pourtant, le tableau des pour et des contre met tous les mêmes critères validés ou invalidés, donc soit les pour, soit les contre, au même niveau. À l'inverse, quand on va inclure une notion de pondération, là, ça va tout changer. On va réellement rendre plus factuelle la notation que l'on va faire de nos critères d'évaluation. Chaque option qui se présente à nous, on va donc réellement la pondérer, lui attribuer un degré d'importance plus ou moins important. Et à partir de là, en fonction des notes qu'on va attribuer par la suite aux différents critères retenus, forcément la pondération va intervenir dans le calcul final, ce qui va faire ressortir une décision et un choix beaucoup plus juste, beaucoup plus logique et beaucoup plus, réel par rapport justement à la réalité des choses et non pas simplement binaire avec des pour et des contre, tous mis au même niveau d'évaluation. Alors, maintenant voyons rapidement comment justement tu vas faire ce tableau-là si tu veux l'implémenter dans ton quotidien. Pour le faire, c'est assez simple. Tu prends ton tableau, donc tu auras un visuel encore une fois sur la vidéo. Tu vas saisir toutes les options qui se présentent à toi pour décider, toutes les prises de décision qui s'offrent à toi, tous les chemins qui s'offrent à toi. Tu vas lister ensuite les critères d'évaluation, des critères qui vont être communs à chacune de ces options qui se présentent à toi. Et tu vas après mettre une note pondérée à ces critères-là. Typiquement, si tu veux faire un recrutement, si tu hésites plutôt entre deux candidats, c'est simple. Tu vas mettre tes deux candidats dans les colonnes, après tu vas mettre des critères de décision. Ça peut être par exemple la proximité géographique, ça peut être le diplôme, ça peut être la maîtrise d'un outil, ça peut être même l'âge de la personne. C'est discriminant, mais dans tous les cas, aujourd'hui, forcément, on fait de la discrimination au travail, c'est obligatoire, on ne peut pas être neutre à 100%, ça n'a aucun sens. Je suis contre cette notion de neutralité, voilà. C'est un peu cru comme discours, ça dissonne un peu avec les discours actuels, mais bon, je suis contre cette notion, justement, d'équité. On ne peut pas être équitable, je suis désolé. On a forcément des préférences, c'est logique, c'est humain, c'est naturel. Il faut arrêter de renier cet aspect-là chez nous. Bref, donc tu vas lister tes différents critères. Tu vas te dire après mentalement si le diplôme est plus important par exemple que la localisation géographique, si la maîtrise d'un outil spécifique est plus importante que le diplôme, l'âge de la personne est plus important par exemple que la maîtrise de l'outil et j'en passe. Tu vas donc mettre des notes pondérées par rapport à ça. Et après, tu vas donc évaluer chaque candidat avec une note par rapport à chaque critère. Après, tu vas multiplier chaque note par rapport à sa pondération. Ça va te faire un total et le candidat avec le total le plus élevé sera le candidat que tu vas retenir de façon factuelle et logique. C'est lui qui va correspondre réellement au poste que tu as de libre pour le recruter. Et ça, encore une fois, ça va t'enlever cette notion émotionnelle, par exemple, liée au fait que tu vas potentiellement accrocher plus ou moins avec un candidat, car là, tu vas te baser sur des conditions factuelles et non pas émotionnelles uniquement. Et également, ça va enlever un autre biais très important qu'il faut connaître et avoir à l'esprit quand on veut décider, le fait que notre cerveau n'est pas fait justement pour évaluer facilement des données chiffrées. Tout simplement. Donc, on a tendance parfois à surestimer une note et à sous-estimer une note. Mais par contre, quand on va mettre une pondération en balance avec tout ça, ça va rééquilibrer les éléments et donc à la fin, le calcul final permettra effectivement de décider justement, de décider efficacement, dans notre cas, du candidat à retenir et du candidat à exclure. Là où un simple tableau des pour et des contre aurait donné une vision beaucoup plus floue, beaucoup plus biaisée et beaucoup moins certaine de la décision à prendre à la fin. Encore une fois, cet outil, tu as un aperçu très rapide sur la vidéo, sachant également que dans la bibliothèque, tous les calculs se font entièrement automatiquement et j'ai mis exprès une échelle de couleurs, une gradation de couleurs pour que ressorte très facilement la décision à prendre et la décision à exclure. Sachant que là, je t'ai donné un exemple avec deux candidats, tu peux le faire avec 10, 20, 30, 40 candidats ou 10, 20, 30, 40 options, bien évidemment, il n'y a pas de limite à cet outil-là. Ensuite, deuxième outil que tu vas voir dans cette vidéo, deuxième outil qui, à nouveau, a pour but de contourner le fait que notre cerveau n'est évolutivement pas fait pour prendre des décisions justes, rapides et récurrentes dans un monde aussi complexe que le nôtre. Cet outil, c'est la matrice gain-effort. Cet outil est certainement mon outil quasiment préféré aujourd'hui. Pour faire simple, cet outil ressemble vraiment dans les grandes lignes, dans les très grandes lignes, au modèle Pareto. Un modèle que tout le monde connaît et qui nous dit que 80% des effets sont produits par 20% des causes. Mais la matrice gain-effort va encore plus loin. C'est vraiment, pour moi, l'outil idéal pour choisir de façon stratégique où et comment tu vas investir ton temps et ton énergie pour maximiser tes résultats. C'est l'outil parfait pour éviter de perdre du temps en se concentrant sur un projet qui va être peu rémunérateur. Alors, rémunérateur au sens financier comme au sens humain. C'est également l'outil parfait pour identifier toutes les petites actions qui ne payent pas de mine, de prime abord, qui ne demandent aucun effort, mais qui vont, pourtant, apporter justement ce facteur rémunérateur intéressant que tu vas rechercher toi au quotidien. Et c'est également, et même surtout d'ailleurs j'ai envie de dire, l'outil parfait pour éviter de perdre son temps sur des projets qui de prime abord sont rémunérateurs, mais qui au final sont soit que perte de temps, soit ils demandent trop d'investissement réellement énergétique, réellement cognitif, pour au final s'avérer être rentable pour toi. Maintenant, prends quelques petites secondes pour imaginer juste l'impact que tu auras sur ton équipe, sur ton entreprise et sur ta carrière en sachant investir ton temps de façon stratégique. Imagine tout ce que tu vas pouvoir faire et accomplir grâce à ça. Imagine tout ce que tu vas pouvoir obtenir grâce à ça. Imagine tout le temps que tu vas gagner avec cette matrice. Moi, c'est un outil que j'aurais vraiment et sincèrement à voir plutôt en ma possession. Je ne compte pas le nombre de projets et de tâches où je me suis vraiment impliqué pour au final rien du tout, alors que pour moi, dans mon esprit, pour mon cerveau qui est mauvais calculateur encore une fois, eh bien ces projets allaient me rapporter gros pour ma carrière, en opportunité, en évolution ou en salaire, peu importe, mais allaient dans mon esprit me rapporter gros. Et là typiquement, tu vois, j'ai un exemple qui me revient en tête rapidement comme ça, tu peux pas savoir tout le temps que j'ai perdu au cours de ma carrière dans le recrutement qui a duré 10 ans, pour rappel, 10 ans c'est quand même beaucoup, à faire du sourcing de candidats, donc à rechercher des candidats sur le site de Pôle emploi. Le site de Pôle emploi, réellement, c'est une catastrophe. C'est le pire site au monde pour rechercher un candidat. Si j'avais eu cette matrice à cette époque, j'aurais gagné du temps. Je me serais concentré sur d'autres stratégies d'acquisition de candidats qui m'auraient demandé beaucoup moins d'efforts et qui m'auraient apporté beaucoup plus de résultats que Pôle emploi, encore une fois. Pourquoi j'utilisais Pôle emploi à l'époque ? Simplement car tout le monde utilisait Pôle emploi. J'étais formé à utiliser Pôle emploi. Et forcément, encore une fois, comme pour le tableau des pour et des contre, on reproduit tout simplement ce qu'on a appris tant qu'on ne découvre pas une solution de meilleure qualité, une solution plus rémunératrice et qui demande moins d'énergie à notre corps, à notre esprit, à notre cognition. Typiquement sur Pôle emploi, petite anecdote personnelle pour te montrer à quel point ce site était catastrophique, et je pense qu'il l'est toujours encore. Quand tu recherches par exemple sur Pôle emploi un responsable logistique complètement au hasard, on va dire, dans le secteur du 21, donc sur la Côte d'Or, leur algorithme va te sortir des pâtissiers qui sont dans le 59, va te sortir des plombiers qui sont dans le 72, vont te sortir des électriciens qui sont dans le 34. Bref, et la seule fois où tu tombes par pur miracle, par pure chance, par pure divinité, on va dire, sur un responsable logistique, eh bien là, tu n'as pas son numéro de téléphone, tu n'as pas son email, et souvent, tu n'as même pas son prénom, son âge et ses diplômes, tu sais pas si tu as une voiture ou non. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas discriminer les personnes, encore une fois. Aujourd'hui, on veut tellement peu discriminer les gens qu'on finit par marcher sur la tête. Au final, on veut nous imposer ce CV complètement anonyme où il y a quelques mots dessus, et grâce à ces quelques mots-là, il faut deviner si c'est le bon candidat ou non. On n'est plus sur de la devinette que du recrutement maintenant à cause de Pôle emploi et de cette non-discrimination. Bref, encore une fois, je ne vais pas me faire des amis en parlant de ça, j'en ai conscience. Peu importe, c'est ma conviction. Allez, on ressente le sujet. Cette matrice, elle ressemble à quoi ? Comment elle fonctionne ? Et comment on la met en place ? Je vais te donner les grandes lignes, sachant que j'y reviens en détail dans mon programme Excellence décisionnelle, dont je te parlerai encore une fois à la fin du podcast. Donc, pour faire très simple, elle se construit en seulement 4 petites étapes. Première étape, tu vas lister les éléments que tu as à disposition pour prendre ta décision. Alors, rapidement, la collecte d'éléments, c'est également un élément qui est central dans le programme. On va en parler très rapidement. Petit conseil par rapport à ça. Fais attention à la collecte d'éléments avant de décider, car là, deux biais peuvent littéralement flinguer ta prise de décision. Premier biais, le biais de disponibilité, où tu vas naturellement chercher que des éléments qui vont dans ton sens. Pour le contourner, tu peux par exemple utiliser le modèle mental de Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, dont je te parle dans le programme. Également, tu as le biais du bibliothécaire, en tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle, qui fait que tu veux avoir en ta possession toutes les informations possibles et inimaginables avant de passer à l'action, ce qui est au final, quand on y regarde d'un peu plus près, uniquement que de la procrastination déguisée. Et également, tu as le biais inverse, ce que j'appelle le biais du all-in, en référence au poker, où là, tu vas te lancer, tu vas brûler les bateaux, tu n'as que peu d'informations, mais tu vas te décider. Et là, pour contourner ces deux biais-là, tu as également une méthode, un modèle mental à mettre en place, à adopter au quotidien, qui s'appelle l'approche 40-70, développée par Colin Powell, qui est un ancien chef d'état-major des armées aux États-Unis. Donc, on en revient à l'outil. Je digresse pas mal, mais c'est un sujet, encore une fois, qui me passionne. Première étape, donc tu vas lister les éléments. Ensuite, deuxième étape, tu vas évaluer les gains et les efforts inhérents à chaque élément. Ça, c'est la partie la plus délicate, car comme on l'a vu déjà précédemment, le cerveau a du mal à quantifier les choses, donc j'en parle plus en détail juste après, car on peut contourner ce problème-là. Ensuite, troisième étape, tu vas placer les éléments dans ta matrice, soit à la main, soit en automatique, comme je l'ai fait moi dans ma bibliothèque. Et après, quatrième et dernière étape, là tu vas voir directement de façon visuelle grâce à l'outil, outil qui est très visuel comme je viens de le dire, où tu dois investir ton temps pour justement avoir cette notion de rémunération la plus efficace, la plus probante pour toi, en minimisant cette notion d'effort à déployer. Si tu n'as pas encore vu la vidéo où je balaye rapidement cet outil et où je présente la bibliothèque, va la voir dès maintenant, parce que l'outil de la matrice gain-effort est très visuel encore une fois. Pour ceux qui l'ont vu, comme vous avez pu le voir, il y a 4 cadrans dans cette matrice. Un cadran vert, un cadran jaune, un cadran bleu et un cadran rouge. Et bien donc, en fonction d'où se trouvent les éléments que tu as à ta disposition dans ces cadrans-là, encore une fois, c'est plus facile à voir qu'à expliquer, et bien tu vas savoir comment décider et comment supprimer certaines actions. Voilà. Maintenant, revenons-en à cette notion du problème du cerveau qui est biaisé lors de la phase d'évaluation des gains et des efforts. Pour faire simple, encore une fois, il faut que tu saches que le cerveau humain n'est pas fait pour justement évaluer les données chiffrées de façon efficace et pour faire des statistiques de façon efficace. En même temps, quand on prend un peu de recul, c'est logique. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, les chiffres ne sont arrivés que très récemment. Ça fait une poignée de secondes qu'ils sont arrivés si on compare le début de l'homme à un cadran d'une horloge. Et à cause de ça, du coup, on va avoir naturellement tendance à mal estimer si une tâche est plus ou moins rémunératrice, plus ou moins bénéfique qu'une autre, et si une action est plus ou moins, conséquente à mettre en place qu'une autre action. C'est pourquoi, pour contourner encore une fois cette programmation évolutive du cerveau qui est normale encore une fois, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une défaillance du cerveau, c'est normal. On peut tout simplement changer la dimension en fait des différents cadrans de la matrice. Et ça, encore une fois, tu le vois parfaitement bien dans la vidéo. Et donc, en changeant ces cadrans-là, on va donc créer de nouvelles zones de taille complètement inégale entre elles, où notamment la zone de laisser tomber, donc où les éléments en général sont peu rémunérateurs et demandent beaucoup d'efforts, est beaucoup plus grande que les autres zones. Et ça, ça fait de cet outil-là un outil qui est très punitif par rapport à la prise de décision. Un outil qui est très strict, qui est très mince, qui coupe réellement les décisions sans nuance. Et ça, c'est très bien. Pourquoi ? Car aujourd'hui, on a tendance souvent à se dire « Oui, mais si je fais ça, peut-être que dans telle éventualité, ça peut fonctionner. » Là, la réponse, elle est binaire grâce à cet outil. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est factuel. Et donc, tu sais encore une fois grâce à ça où et comment investir ton énergie pour avoir le maximum de résultats avec potentiellement le minimum d'efforts à déployer. C'est ça qui fait encore une fois toute la force de cet outil qu'est la matrice gain-effort. Voilà. Maintenant, on va passer sur, non pas un nouvel outil pour terminer ce podcast, mais sur un modèle mental. Un modèle mental que je balaye encore une fois dans cette vidéo dont je te parle depuis tout à l'heure. Alors, un modèle mental, c'est beaucoup plus compliqué à retranscrire sur un outil physique et numérique car il s'agit non pas d'un outil cette fois-ci, mais bel et bien d'un mode de pensée. D'un mode de pensée à adopter au quotidien pour changer sa vision des choses. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai eu récemment l'esprit la semaine dernière le fait de faire une formation spécialement dédiée aux modèles mentaux justement à adopter. Car le truc qui est super fascinant avec les modèles mentaux, c'est à quel point ils peuvent changer littéralement notre vie quasiment. Car ils vont changer en fait notre vision de la vie, notre vision du monde, notre approche des choses également. En effet, comme je te l'ai déjà dit rapidement dans le premier podcast, de cette série de podcasts sur la prise de décision, notre système 1 nous impose constamment sa propre vision du monde en fonction des signaux qu'il reçoit. Donc, constamment, notre vision du monde évolue et change selon on va dire l'humeur de notre système 1. L'exemple le plus probant que je peux te citer pour t'illustrer ça, pour que tu en aies conscience, c'est la colère. C'est fou à quel point qu'on est en colère, tout va nous énerver au quotidien. Alors qu'en temps normal, le même élément qui survient va nous laisser indifférents. Pourtant, quand on est en colère, ça change tout. Ça change réellement cette approche du monde et des éléments qui nous entourent. Et donc, encore une fois, ça va biaiser ça, nos prises de décision, nos actions, nos comportements et nos réactions. Mais tu vois, ça, grâce aux bons modèles mentaux, grâce à l'utilisation et à l'implémentation des bons modèles mentaux, notamment ceux utilisés par les plus grands de ce monde, je fais écho encore une fois à Charlie Munger, dont j'ai parlé précédemment, eh bien, on peut justement utiliser cette fonction-là du système 1 pour la tourner à notre avantage et donc avoir une vision positive du monde, une vision recherche de solutions, une vision entrepreneuriale du monde également. Alors, entrepreneuriale également au sens salarié, donc entreprendre des choses dans son entreprise, et non pas une vision qui va être biaisée par nos sentiments, par nos coups de colère et par également la fatigue et j'en passe. Donc, si ce type de programme avancé-là peut t'intéresser, dis-le-moi simplement par email ou dis-le-moi par SMS. Tu trouveras facilement mon numéro de téléphone et mon email en description du podcast. Maintenant, pour en revenir à ce modèle mental, le modèle mental que tu vas voir rapidement passer dans la vidéo de présentation de la bibliothèque. Ce modèle mental est l'effet domino. C'est le modèle de l'effet domino. Tout le monde connaît les dominos, je pense, donc pas besoin d'expliquer ce que c'est. De dire que c'est des petits rectangles noirs avec des points dessus, ça on s'en fiche. Ce qu'il faut avoir à l'esprit avec les dominos tout simplement, c'est que quand on les aligne, debout, si on en fait tomber un, se produit immédiatement une réaction en chaîne où la chute du premier va entraîner la chute des autres dominos. Donc, ou simplement, la réaction du premier domino va avoir une conséquence directe sur le comportement des autres dominos. Donc, réaction et comportement. C'est vraiment les deux termes à avoir à l'esprit. Cette image-là est donc très importante à retenir quand on prend une décision. Et il faut notamment se la rappeler juste après avoir utilisé un outil d'aide à la prise de décision. Car notre cerveau, en fait, il a une tendance qui est encore une fois liée à son évolution. Je sais, je ne parle que de ça, mais c'est justement ça qui me passionne. C'est de ça dont parle mon podcast de façon générale. Donc, notre cerveau a une tendance, à cause de son passé évolutif, à se concentrer uniquement sur les conséquences immédiates de ses actions et donc de nos prises de décision. Et cette caractéristique-là, petit aparté, est parfaitement bien expliqué au travers du principe de Covera, donc C-O-V-E-R-A, développé par Daniel Kahneman dans son livre Système 1 et Système 2. Donc, Covera signifiant ce que je vois est rien d'autre et qui est donc le comportement de base du système 1. Le système 1 voit uniquement ce qu'il voit et ne voit pas ce qui va entourer justement l'élément qu'il a dans son champ de vision. Il ne voit pas plus loin que le premier plan qui fait face à lui. Le système 1, en fait, va donc nous forcer tout simplement, toujours par cette volonté d'économie d'énergie et de simplification du réel, avoir uniquement les décisions, les conséquences, directes d'une prise de décision en faisant abstraction totale des conséquences de deuxième et de troisième degré. Pourtant, pour prendre une bonne décision, pour prendre une décision qui va être efficace, qui va être juste, qui va être précise, on ne peut pas se passer de ses conséquences à deuxième et troisième degré. D'où l'importance d'avoir à l'esprit ce modèle mental du domino, par lequel on va forcer notre cerveau à passer du système 1 au système 2 pour réfléchir de façon non pas réellement simple, mais de façon beaucoup plus globale, de façon beaucoup plus complète et donc de façon beaucoup plus juste pour tenir compte, encore une fois, de ces conséquences de deuxième et de troisième degré. Alors justement, comment on va les déterminer simplement ? Pour ça, rien de plus simple, quand on connaît la méthode, quand on connaît un peu le truchement de l'esprit, il suffit d'ajouter deux nouvelles dimensions à notre prise de décision. La dimension temporelle et la dimension de la fréquence. Dimensions auxquelles personne ne pense, alors qu'elles sont clés aujourd'hui quand on veut décider efficacement. Pourquoi personne n'y pense ? Encore une fois, parce que le cerveau n'est pas câblé pour. J'insiste dessus, mais c'est tellement passionnant, je trouve. En effet, si spéculer sur le futur et tenir compte de la fréquence de survenue des événements était réellement des caractéristiques clés dans la survie de notre espèce, on en aurait hérité. Mais vu que ça n'a jamais été le cas durant des millions et des millions d'années, le cerveau reste avec sa vision beaucoup plus simple et beaucoup plus à court terme des conséquences. Bref, j'arrête avec ça, promis. Alors, comment on va faire pour ajouter ces deux dimensions à notre prise de décision ? Rien ne vaut, je pense, la preuve par l'exemple. Alors, premier exemple, imaginons que tu veuilles te séparer de ta compagne ou de ton compagnon, car vos chemins divergent. Premier degré, c'est quoi ? La décision, elle va être difficile à prendre. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as peur de la conversation que tu vas avoir avec ton ou ta partenaire, peut-être que vous avez une maison en commun, peut-être que tu as peur de perdre des amis, peut-être que tu as peur d'être catalogué de méchant dans l'histoire, et j'en passe. Autrement dit, au premier degré, cette décision n'est pas à prendre du tout. C'est une mauvaise décision de prime abord. Ensuite, deuxième degré. Là, un an s'est écoulé. Certes, tu as toujours des sentiments, tu as toujours des doutes sur ta prise de décision, tu t'es installé seul maintenant dans un nouveau logement, et tu commences tranquillement à commencer à faire ce que tu aimes, à faire ce qui te plaît, à faire tout ce que tu ne pouvais pas faire auparavant à cause de ta relation qui n'était pas adaptée à ça. Maintenant, troisième degré. Là, on se situe maintenant 5 ans plus tard. 5 ans se sont passés déjà. Là, tu as complètement reconstruit ta vie. Tu as trouvé quelqu'un d'autre, beaucoup plus aligné avec toi. Tu as quitté ton emploi pour te lancer dans des projets entrepreneuriaux et tu es encouragé par ton partenaire ou par ta partenaire. Donc bref, ici, une mauvaise décision de prime abord se transforme en bonne décision quand on ajoute cette notion de temps et de fréquence. Et je viens de me rendre compte que je décris parfaitement bien ma situation, la situation que j'ai vécue il y a quelques années quand j'ai quitté mon ex. Bref, c'est autre chose. Maintenant, deuxième exemple. Imaginons que tu veuilles cette fois-ci quitter ton emploi, par exemple, voilà, pour faire concurrence à ton entreprise actuelle en créant ta propre société. Tu sais parfaitement d'ailleurs que tes clients vont te suivre et que tu as les compétences pour le faire. Donc, conséquence du premier degré, tu es heureux, tu as créé ta propre société, tu es libre, tu n'as plus de responsable et tu as récupéré tes clients comme prévu, tout se passe bien. Maintenant, deuxième degré. Tout ça, encore une fois, tu vas l'imaginer en amont de la prise de décision, bien évidemment. C'est de la spéculation à 100%. Donc, deuxième degré. Là, on est encore une fois un an plus tard, 12 mois plus tard. Alors, malgré ton manque de moyens matériels et humains, tu as fait tout au maximum durant les 12 derniers mois pour satisfaire tous tes clients. Mais forcément, c'est logique, tu ne peux pas te dédoubler, donc tu as un peu bâclé ton travail pour tenir les délais qui t'étaient imposés. À cause de ça, tu as perdu quelques clients qui sont retournés vers ton ancien employeur. Ton entreprise commence à vivoter tranquillement et tu vas devoir passer à de la prospection pour trouver de nouveaux clients si tu veux réellement que ton activité se poursuive et soit pérenne dans le temps. Maintenant, troisième degré que tu vas encore une fois imaginer et spéculer avant de prendre ta décision. Là, tout le temps que tu as passé en prospection durant ces dernières années, tu ne l'as pas passé à travailler pour tes clients actuels. La prospection s'est également avérée plus compliquée que prévu, car les clients que tu as perdus il y a quelques années en arrière te font maintenant une très mauvaise publicité et ton entreprise, qui aujourd'hui était un idéal pour toi, commence réellement à être sur la pente négative et à couler. Dans ce cas-là, On est sur le phénomène inverse que le phénomène précédent. Une décision qui, de prime abord, paraissait être très bonne, va se transformer en un véritable cauchemar au troisième degré. Et ce qui est encore plus intéressant à remarquer ici, c'est que grâce à cette spéculation-là, grâce à cette projection-là, notre protagoniste imaginaire va comprendre ici que s'il ne veut pas se planter, il ne doit surtout pas chercher à privilégier la quantité à la qualité. C'est ça qui lui a fait perdre des clients. Donc à partir de là, il peut se dire que si je me lance, ok, je prendrai certes moins de clients, mais je vais me défoncer pour eux jusqu'à que le bouche-à-oreille fasse le travail pour me rapporter des clients autres sans prospection. Donc, grâce à cet outil de l'effet domino, on peut voir déjà d'une part que les décisions de premier degré sont pas forcément gages de ce qui va se passer à l'avenir. Et également, on va potentiellement trouver des solutions, des hypothèses, des spéculations pour éviter qu'une prise de décision empire au deuxième et au troisième degré. Et là, tu as un super outil qui vient compléter parfaitement ce modèle mental, qui est l'outil Maximax et Minimax, dont je te parle dans le programme en détail. Programme que tu peux découvrir d'ailleurs en cliquant sur le premier lien en description, tout comme la vidéo de présentation de la bibliothèque. Dans ce programme, maintenant il est temps d'en parler pour moi, vu qu'on arrive à la fin du podcast, ça fait déjà 40 minutes quasiment que j'enregistre. Donc dans ce programme, tu vas découvrir certes les deux matrices et le modèle mental que je t'ai présenté, dont je viens de te parler en détail, mais tu vas également découvrir de nombreux autres outils, matrices, modèles et biais cognitifs pour mieux décider. Pour décider en contournant encore une fois le côté évolutif de notre cerveau, l'ancrage évolutif du cerveau qui fait qu'on décide mal aujourd'hui. Tu vas avoir accès à un total de 17 outils pour être précis pour l'instant. Je reviens juste après sur cette notion de pour l'instant. Je vais également te parler en détail, parce que moi ça me passionne et je pense que toi aussi, de tous les facteurs évolutifs qui font que ton cerveau est mauvais décideur. J'en ai déjà abordé plusieurs, mais sache qu'il y en a de nombreux autres et quand on comprend ça réellement, on va changer notre vision du monde. On va prendre en fait comme une paire de lunettes spéciales qu'on va mettre sur nos yeux et le monde qui nous entoure va paraître différent du monde actuel. On va comprendre beaucoup plus de choses, beaucoup plus de comportements humains, beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de prises de décision qui sont vouées à l'échec. On va comprendre le pourquoi évolutif cet échec sera présent suite à la prise de décision. Et ça, nous, ça va nous permettre en tant qu'individu, en tant que cadre, en tant que manager, en tant que directeur d'entreprise, déjà d'anticiper nos propres prise de décision et surtout de voir rapidement si un de nos collaborateurs va potentiellement également se planter à cause de ces ancrages évolutifs très puissants ancrés dans notre cerveau. Également, je vais te partager bien évidemment tout ce qui va graviter autour de la prise de décision. Je fais ici écho par exemple à tout ce qui est collecte d'informations dont j'ai survolé le sujet rapidement dans ce podcast. Je pense également à tout ce qui est éviter de tomber dans le piège des différents biais cognitifs encore une fois. Également, je parle d'introspection, super important. Je parle également de journaling, également de comment transformer une mauvaise décision en opportunité pour toi. Et surtout, le cœur du programme, ce que t'attends le plus, je pense, je vais te donner, grâce à ce programme-là, un accès à vie à ma bibliothèque de prise de décision. Un accès à vie ainsi qu'à toutes les mises à jour qui seront faites là-dessus. D'où le fait que je te parlais tout à l'heure de 17 outils pour l'instant. En effet, si je trouve de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, de nouveaux modèles, je vais les implémenter dans la bibliothèque et tu auras accès parfaitement gratuitement grâce à ton abonnement à la formation, au programme. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, une chose qui pourrait être cool à mettre en place, dis-moi ce que t'en penses potentiellement par email, c'est de créer un forum privé par rapport à ces outils, par rapport à ces méthodes-là, et de créer au final une bibliothèque communautaire où on va tous réunir nos cerveaux, on va faire de l'intelligence collective par rapport à ça, pour justement créer ensemble la meilleure bibliothèque de prise de décision possible pour nous entraider, encore une fois, à contourner ce problème évolutif que connaît le cerveau actuellement. Pour ça, je mettrai en place un forum, tout simplement, en quelques clics, et ce sera l'occasion d'échanger avec vous et de partager nos outils, nos stratégies, nos modèles et même potentiellement nos échecs et nos réussites grâce aux outils en question. Et pour terminer, je suis encore en train de finaliser cette formation-là, elle n'est pas terminée, loin de là d'ailleurs. Tout le plan est prévu, tous les outils sont prêts, etc. Il me reste quelques modifications, quelques implémentations et surtout réellement quelques paramètres à mettre en place dans l'outil en question. Donc à l'occasion du lancement de cette formation, donc Excellence décisionnelle, qui aura lieu tout le long de cette semaine, donc de ce lundi, date de sortie du podcast à vendredi prochain, je t'offre 40% de remise sur le prix du programme avec le code LCTXD. Donc LCTXDI, XD pour excellence décisionnelle. Si tu veux découvrir encore une fois le programme complet, il te suffit tout simplement de cliquer sur le premier lien en description. Maintenant, je te dis soit à tout de suite dans le programme pour déjà, dès maintenant, dès le premier module, télécharger ton application, clé en main encore une fois, soit je te dis à la semaine prochaine où on va aborder un sujet qui me tient encore une fois terriblement à cœur et où je vais bien m'amuser, je pense, à démonter, à détruire certains pseudo-coachs sur Internet qui parlent de développement de compétences. Bref, je t'en dis pas plus, sois au rendez-vous. Je te souhaite une très bonne journée maintenant, également une belle semaine pleine de réussite et pleine de surperformance. Ciao !